Bienvenue à toutes et à tous. L'église Hosanna ainsi que toute son équipe a le plaisir de vous accueillir. Nous espérons que vous passerez un agréable moment à l'écoute de ce message audio présenté par le pasteur Bruno Picard. L'ensemble de l'équipe vous remercie de votre visite et vous souhaite à toutes et à tous une très bonne écoute.
Amen. Prenez place, vous êtes un peuple dangereux. Vous savez, dernièrement j'étais dans une église, plusieurs mois de cela, et en m'asseyant dans l'église, j'ai senti le Saint-Esprit pleurer. C'est vraiment, vraiment un sentiment très difficile à ressentir lorsque tu es un prophète et je m'assois dans l'église au premier rang et le Saint-Esprit pleurait. Et je dis, Saint-Esprit, pourquoi est-ce que tu pleures? Il me dit, parce que ici, je suis toléré et pas célébré. Il me dit, parce que je suis le Saint-Esprit et je ne suis pas invité. Je suis toléré. Il m'a dit, je pleure parce qu'ici, je suis dans une boîte. Église, que jamais à Hosanna, nous mettions le Saint-Esprit dans une boîte. Pour ceux et celles qui nous rendent visite la première fois, pour les membres de l'Église, sachez que je ne suis pas le pasteur de l'Église. Et que Steph n'est pas le pasteur de l'Église. Nous sommes uniquement les co-pasteurs. Parce que le vrai pasteur, c'est le Saint-Esprit. C'est lui qui dirige nos vies. C'est lui qui prend le contrôle. J'ai passé une semaine extrêmement intéressante. Et vendredi dernier, j'ai été extrêmement béni par la parole prophétique. Lorsque Dieu disait, vas-y, fonce, je te couvre. Vous vous souvenez de ça? Qui était présent vendredi dernier? Qui était là? Qui était absent vendredi dernier? Tout le monde dit dommage. Et heureusement que j'ai eu cette parole prophétique vendredi soir, parce que samedi matin à 8h, l'enfer a cogné à ma porte. Et l'enfer s'est invité à ma porte du samedi matin 8h gym jusqu'à hier soir, ce matin 3h40 du matin. L'enfer s'est invité. J'ai pas invité, il s'est invité. Et pendant ces 4 derniers jours, ça a été combat sur combat sur combat spirituel intense. Je n'ai rien dit à ceux qui m'entourent, à mon épouse, à personne. J'ai fait mon petit combat avec mon grand Dieu. J'ai dit, Seigneur, tu m'as bien dit, vas-y, fonce, je te couvre, alors j'y vais. Je ne cherche pas à me plaindre, je ne cherche pas à avoir le soutien humain. J'ai simplement écouté attentivement la voix de Dieu qui avait dit, vas-y, fonce, je te couvre. Ah, Église, je vais tenter d'être bref ce soir, j'aimerais vous libérer avant minuit. Regarde ton voisin et dis, Dieu est dans ce lieu. Sur vos écrans ce soir, Matthieu 27. Tu peux pas... Ok, c'est pas grave. C'est ça. J'ai des bons yeux, je suis très bon, je vois bien, je suis extrêmement précis. Mais là. C'est pas grave, je viens quand même. Vas-y, c'est pas grave, mets-le. Ok. À la sortie de la ville, ils rencontrèrent un homme nommé Simon, originaire de Cyrène, et lui firent porter la croix de Jésus. Ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne. Et là, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel. Mais quand il l'eut goûté, il refusa de le boire. Après l'avoir cloué sur la croix, les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort. Puis ils s'assirent pour monter la garde. Ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation, « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Deux brigands furent crucifiés en même temps que lui, l'un à sa droite, l'autre à sa gauche. Ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient « Hé, toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. » De même, les chefs des prêtres, l'église de l'époque, les spécialistes de la loi, se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple, en disant, dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même. C'est ça le roi d'Israël? Qu'il descende donc de la croix, alors nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Eh bien, si Dieu trouve son plaisir en lui et qu'il le délivre, n'a-t-il pas dit « Je suis le Fils de Dieu » Aïe, aïe, aïe. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière. À partir de midi et jusqu'à 3 heures de l'après-midi, le pays entier fut plongé dans l'obscurité. Vers 3 heures, Jésus cria d'une voix forte « Eli, Eli, lama sabachthani » ce qui veut dire « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Je ne sais pas pour vous, mes chers amis, mais à ce moment précis, le Fils de Dieu, le Roi des Rois, le Créateur, Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ, homme, 100% homme et 100% Dieu, est sur la croix et il se fait insulter par ceux et celles qu'il veut sauver. Il se fait insulter par ceux et celles pour lesquels il se trouve sur la croix. Il se trouve dans une situation catastrophique aux yeux du monde, les gars, c'est dur ce qu'il vit là. Franchement, je ne sais pas pour vous, mais se retrouver à un moment aussi intense dans l'histoire où les ténèbres règnent partout, où tout le monde l'a abandonné, je dis bien tout le monde, parce que Jésus-Christ s'écrit lui-même « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Cette semaine, j'ai cherché dans l'hébreu ce que signifiait la phrase « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et vous savez ce qui m'a touché le plus, c'est la simplicité des mots. Écoutez bien ça, quand Jésus dit « mon Dieu », le mot hébreu, c'est El. Et le mot El signifie tout-puissant. Jésus dit, toi qui es tout-puissant. Il veut sous-entendre que Dieu le Père est capable, s'il le veut, de le libérer maintenant. Il est conscient sur la croix que son Père a la toute-puissance pour le libérer, arrêter tout maintenant, même en un clin d'œil, arrêter l'histoire de l'humanité. Il est capable, Dieu le Père lui-même, en un clin d'œil, non seulement d'enlever la croix, mais d'enlever tous les hommes et de revenir au plan initial, de revenir à ce qu'il était avant, avec son Père et le Saint-Esprit, dans la Trinité parfaite. Dieu, le Fils de Dieu sur la croix, dit, « Mon Dieu, mon Père, toi le tout-puissant, plus que puissant. » Il confesse ça et il dit, « Pourquoi ?» M'as-tu abandonné ? Il n'a pas dit pourquoi m'abandonnes-tu comme s'il y avait encore une chance de sauver la situation. Il sait que c'est trop tard, son père l'a déjà abandonné. Le mot, la phrase hébreu est dans le passé, un passé qui signifie comment on dit ça encore en français ? Et quoi ? Irrévocable. Irrévocable, c'est impossible de revenir. Le Fils de Dieu se dit, ok, là, je suis vraiment dans une situation incontrôlable, en dehors de mon contrôle. Je ne peux plus rien faire. C'est arrivé au stade où je n'ai plus rien à faire, si ce n'est de faire confiance à Dieu. Écoutez bien ça ce soir. Peut-être que la France et la Réunion et les chrétiens en France et en la Réunion se disent que nous sommes dans une situation irrévocable. Les hommes et les femmes de ce monde ne cessent de dire que le monde va mal, que le pays va mal. Les hommes et les femmes de ce monde ne cessent d'avoir leur pronostic. Mais moi ce soir je veux être prophétique. Qu'est-ce qu'il y a d'après vous, garder Christ sur la croix? Qu'est-ce qui a fait que Christ et rester là où il devait être pour accomplir ce qu'il devait accomplir? Quelle différence il y a entre le Christ que nous servons et tous les autres dieux, idoles qui n'ont aucune puissance? La différence, c'est la perspective, la perception. Soit j'aimerais opposer deux styles de chrétiens, ou deux styles d'attitude, ou deux styles de vie, la vie de pronostic ou la vie prophétique. Qui est pour une vie pronostic? Ah oui. Qui est pour une vie prophétique? Je vais opposer rapidement ce soir deux styles de vie. Écoutez bien ça, la perception de la circonstance, ou la perception de ta situation, ou la perspective situationnelle, opposée à la perspective vocationnelle. Tout le monde dit vocationnelle. Je ne sais pas si ça existe, c'est pas grave, on invente le mot ce soir. Vocation opposée à situation. Tout le monde dit vocation opposée à situation. Écoutez bien cela. Dans la vie d'un chrétien, dans la vie d'un être humain, dans la vie d'un chrétien, c'est encore plus profond. Dans la vie d'un chrétien, le danger est de laisser sa vie être dictée par la situation dans laquelle on se trouve, alors que nous devrions être conduits par la vocation que Dieu a dans notre vie. La vocation, ça se pose à la situation. Et je sais que c'est un message très simple, mais c'est un message prophétique pour l'église. Hosanna, car je vous déclare que Dieu va élever son peuple au milieu de la famine spirituelle dans laquelle la France se demeure. Dieu va élever son église et va bénir les chrétiens et les chrétiennes qui ont confier leur vie entre les mains de Dieu. Dieu va bénir et élever ceux et celles qui ont la perspective de la vocation, mais ceux et celles qui ont la perspective de leur situation resteront prisonniers de leur situation. Ce soir, ce message est très important parce que je vais faire appel à une armée de jeunes prophètes. Je vais faire appel à une église prophétique. Tout le monde dit ma perception assure ma réception. La perception, c'est l'antenne spirituelle qui capte ce que Dieu dit. La perception, c'est l'antenne de la réception. Celui ou celle qui ne peut pas percevoir ce que Dieu dit, ne peut pas recevoir ce que Dieu a, ne peut pas multiplier ce que Dieu donne. Et c'est pour ça qu'en tant que prophète, j'ai appris dans ma vie, j'ai appris à le faire et je le fais de plus en plus. Et combien ça marche, les amis, ça marche. Tu dois dire ce que tu entends afin que tu vois ce que tu dis. C'est un principe prophétique fondamental. Tu dois proclamer et dire ce que tu entends afin que tu vois de tes yeux ce que tu dis. Si l'Église continue à parler comme ceux et celles qui font des pronostics, si l'Église continue à dire « ben la vie est dure, c'est difficile, et Mélenchon, et M. Sarkozy, et M. Bayrou, et M. ceci, tu comprends, et les lois, de la dame, mais qu'est-ce que Dieu dit ?» Vendredi dernier, j'ai dit une phrase qui m'a choqué moi-même. J'ai dit « je ne suis ni à gauche, ni à droite, ni au centre, je suis en haut. » L'Église doit cesser. Église, vous devez, vous et moi, nous devons cesser de nous ranger du côté des pronostics. Nous devons embrasser le côté prophétique. Nous devons cesser de vivre selon la situation. Nous devons plutôt vivre selon la vocation. Christ était conduit par sa vocation et non pas par sa situation. Dans Luc 22, Jésus est en train de parler à ses disciples et il est en plein repas avec eux et il dit... Il prit le pain et remercia Dieu, le partagea en morceaux qu'il le donna en disant, écoutez bien ça, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Tout le monde dit pour moi. Faites ceci en souvenir de moi. Après le repas, il fit de même pour la coupe en disant, ceci est la coupe de la nouvelle alliance conclue par mon sang qui va être versée pour... Pour qui? Pour moi, pour vous. La vocation de Jésus, c'est nous. Et sur la croix, il n'est pas conduit par la situation, il est conduit par la vocation. Sois prophétique, écoutez bien, c'est important. Tout le monde dit vocation. L'ennemi, Alain, l'ennemi numéro un de ta vocation, Steve, de ta vocation, Samuel, l'ennemi numéro un de votre vocation, c'est le pronostic. Et l'outil numéro un de ta vocation, c'est le prophétique. Qu'est-ce que le pronostic? Le pronostic, c'est une prévision des cours probables de la vie, une prévision de l'issue d'une situation fondée sur des faits visibles. Je répète, le pronostic, c'est avoir une prévision de l'issue d'une situation en se basant, en fondant notre prévision sur des faits visibles. Mais la prophétie, c'est une prévision de l'issue d'une situation en se basant sur des faits invisibles. Le pronostic, c'est une prévision, une prévoyance, c'est prévoir les choses en se basant sur des faits visibles, des statistiques, des calculs. Rien de mal, mais ça c'est... pour les perdants. Et le prophétique, c'est une prévision, c'est prévoir l'avenir en se basant sur des faits invisibles. Et quand je dis ce que j'entends, je vois ce que je dis. Jésus, avant de descendre de la croix, était en repas avec ses disciples et il a institué la scène, le repas du Seigneur. Et il a partagé le pain et le vin et il a dit, je le fais pour vous. Sa vocation était en lui, il l'a fait pour vous et pour moi. Mais dès l'instant où l'Église cesse d'oublier pourquoi nous vivons, nous laisserons les circonstances dicter notre vie. Et combien nous devenons médiocres, et perdants, et ignorants, et fatigués, et frustrés, lorsque les circonstances, les situations transforment notre perspective. Et vous savez, Jésus a été laissé sur la croix par son Père, parce qu'il était de l'intérêt de son Père et de tous que Jésus reste sur la croix. Parce que si Jésus devait descendre de la croix au moment où il a dit pourquoi, sa vocation aurait été détruite. Et vous et moi, avec. Dieu nous laisse dans des circonstances souvent difficiles afin que la vocation nous soit révélée, éprouvée et que la vocation devienne vraie en nous. Il n'y a rien de mieux qu'un bon vieux test. Tout le monde dit Amen. Il n'y a rien de mieux qu'une bonne situation qui révèle la vocation. Parce que rien n'est pire que de vivre sa vie en doutant de la vocation. Mais quand tu es dans le test et que tu sais que l'ennemi fait rage, mais que Dieu te couvre et que tu es là parce que tu dois faire ce que tu dois faire et tu dois faire les choses que Dieu te l'a dit, tu dis ce que tu vois afin que tu vois ce que tu dis et toutes les choses sont contre toi et le monde est dans l'obscurité et l'église se moque de toi, les prêtres crachent ton visage, les brigands se moquent de toi et le monde de l'enfer est contre toi. Mais toi tu sais que tu n'es pas là par la circonstance ou la situation, tu es là par la vocation et tu ne te t'assois pas avec les pronosticateurs, tu t'assois avec les prophétiques. Tu n'écoutes pas ce que le monde déclare, tu écoutes ce que Dieu dit du monde. Église, vous devez commencer à comprendre que nous ne sommes pas la lumière du monde pour rien. Jésus nous a appelés, il a dit, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. Il a dit, c'est mon esprit habite en vous. Vous êtes une armée, vous êtes un peuple royal, un sacerdoce, une nation sainte, une race élue. Vous n'êtes pas des petits perdants de ce monde, vous êtes les plus que conquérants. Quand je me lève le matin, je regarde dans le miroir, je dis, je suis plus que vainqueur. Et cette semaine, frère et sœur, a été très dure. Je vous le promets. Mais le type me connaît bien maintenant. Si j'avais vécu cette semaine, il y a quoi, 3-4 ans en arrière, j'aurais été démoralisé, j'aurais été dans ma cave, j'aurais dit qu'on ne me parle pas, qu'on ne me dise rien, je ne peux parler à personne. Et j'ai senti la différence que cette semaine, plus que jamais, je n'ai pas écouté les pronostics de Satan, j'écoutais la prophétie de Dieu. Et continuellement, quand on m'a insulté, attaqué, ça a été tous les soirs, tous les jours, tous les soirs, c'était vraiment bizarre. Pas par méchanceté pure, mais c'est comme ça, c'était bam, bam, bam. Et j'ai écouté, je fais ok, d'accord, c'est bon, ok, je suis resté calme, je dis Seigneur, je t'aime, et je me suis rappelé de ma vocation. Je ne suis pas là pour moi, je suis là pour les autres. Je ne suis pas là pour être aimé, je suis là pour aimer. Celui ou celle qui cherche toujours à être aimé par les êtres humains, c'est bien, mais je suis complet en lui. Et le dit et moi, ça marche bien en ce moment, pourquoi? Enfin, en ce moment, depuis quelque temps. Parce qu'on s'est rendu compte que ce n'est pas une moitié plus une moitié qui fait un. C'est un et un qui font un. Vous avez suivi ou pas là? Les jeunes qui veulent se marier en disant « Quand je serai marié, je serai complet. » C'est faux. Tu dois être complet avant de te marier. Celui qui se marie pour être complet ne sera pas complet de toute façon après, parce qu'aucun homme ni aucune femme ne peut te compléter. Seul Dieu peut te compléter. Mais quand un homme complet en Christ rencontre une femme complète en Christ, ça devient une bombe spirituelle. 1 et 1 plus 1 égale 1. Non, ce n'est pas Vandame. Ce soir, Église, j'ai un message court. Simple, mais combien puissant. Le pronostic, c'est écouter quelqu'un qui va te donner ton avenir. Et on écoute ça tous les jours. Les sondages sont remplis de pronostics. Et si je vous disais, moi, que je suis à 99,9% au courant de qui sera président? Et ce qui me frustre, c'est que je ne peux pas encore le dire. Je ne sais pas quand, j'espère que ce sera avant, parce que c'est molle sinon. Vous savez, aujourd'hui, on m'a encouragé comme jamais. Quelqu'un m'a appelé en 2010, en 2009. J'ai appelé une femme, une jeune dame. Je l'ai appelée dans l'église et je lui ai donné une prophétie. Écoutez bien ça. Et dans la prophétie, j'ai donné une prophétie pour son patron, qui est un homme connu, donc je ne vais pas trop en parler. Et j'ai donné une prophétie pour son patron et j'ai décrit la vie de son patron. Cette jeune dame-là, avec beaucoup d'humilité, m'a dit, tu sais, j'ai pas trop osé lui donner, je sais pas trop comment faire, mais bon. Et les mois ont passé. Aujourd'hui, son patron l'a appelé dans son bureau. En disant, voilà, j'ai écrit un livre. Et j'aimerais que tu lises le premier chapitre. Et le premier chapitre, c'est exactement le contenu de la prophétie que j'ai donnée il y a 2 ans. Elle m'a appelé en disant, je sais pas quoi faire, je sais pas quoi dire. Quand j'ai lu le chapitre, j'ai tout de suite pensé à la prophétie. Je vais la prendre et lui donner cette semaine, dans les jours qui viennent. Pour ceux et celles qui ne comprennent pas le prophétique, ce n'est pas ma faute. Je fais de mon mieux pour vous l'expliquer. Je refuse de soumettre ma vie au pronostic. Je choisis de soumettre ma vie au prophétique. Alors c'est vrai, les gens autour de nous disent la crise, il faut tout arrêter, il faut thésauriser, il faut mettre de côté, il faut n'importe quoi. Depuis quand est-ce que Dieu est influencé par la crise? Vous êtes tous bizarres quand vous regardez comme ça. Vous me prenez pour un fou quoi? Combien de fois est-ce que l'Église va continuer à commettre l'erreur impardonnable presque de dire ah, « c'est trop dur, on va voir ce qui se passe, après les élections, je ferai des choses ». Mon ami, si Dieu te dit « fais telle chose », Dieu et toi, vous formez la majorité. Le reste n'a aucune importance. Vous connaissez Jacob dans la parole de Dieu dans Genèse. Jacob, le gars, il pas mal aussi lui. Hein. Lui, il pique le droit des nets de son frère en échange d'un bol de lentilles. C'est pour ça qu'il faut bien manger. Parce que quand t'as faim, tu fais n'importe quoi. Et Jacob vole le bol de lentilles, vole le droit des nets. Écoutez ça. Et il est en fuite. Et il se retrouve allongé par terre et comme oreillé, il a un galet, un rocher. Il fait froid, il fait noir, ce n'est pas confortable. Écoutez bien ça. Et là, il se met à prier et le gars est perdu. Et tout d'un coup, dans cette situation-là, Dieu vient. Mon ami, si tu es dans une galère et que Dieu débarque dans ta galère, je parle de Dieu en réel. Dieu se manifeste à lui dans une galère. Tu dis quoi? Quelle est ta première prière? Aidez-moi. Sors-moi de la galère. Seigneur, est-ce qu'on peut aller parler à l'hôtel? Vu que tu es là, tu peux tout faire. Est-ce qu'on peut parler dans une autre dimension? Dieu lui parle. Et Dieu repart, le laisse là, dans la même galère. Rien n'a changé, même oreiller, même situation, même tueur en série derrière lui. Rien n'a changé, le gars est toujours poursuivi par son frère. La différence, c'est que Dieu lui a donné une bombe dans l'esprit. Il lui a dit, de ce lieu, je ferai de toi une nation. De ce lieu, le pays que tu vois, je le donnerai à ta famille et aux générations qui vont suivre. Il se lève le matin, avec le même oreiller, en housse de galet. Il se lève le matin dans le même quartier, la même zone, le même truc, la même situation, mais son regard a changé. Il n'est plus soumis au pronostic. J'ai une chance sur une de mourir. Il se dit, mon Dieu m'a dit que dans mon futur, tout ce que je vois appartiendra à ma famille. Et il comprend, il dit, là je vais vivre longtemps parce qu'il faut que je me marie, j'ai des enfants. Mes enfants de mes enfants seront bénis. Je vais donc appeler ce lieu Bethel. Le lieu où Dieu se manifeste. Jésus-Christ est sur la croix. C'est le lieu du brisement. Et c'est pourtant le point de départ du gouvernement. Fais de ton lieu de brisement un lieu de gouvernement. Change le pronostic en prophétique. décide de voir la vie avec les yeux de l'esprit. Dis ce que tu entends et vois ce que tu dis. Si Dieu t'a dit, tu seras un homme d'affaires béni. Si Dieu a dit, je bénirai tes affaires, tu dois commencer à dire ce que tu as entendu. Si Dieu a dit, je guérirai ton pays, ou je guérirai ton cœur, ou ton mariage, ou ta famille, je sauverai tes enfants. Si Dieu l'a dit, tu dois le dire, dis ce que tu entends, afin que tu vois ce que tu dis. Moi, ce soir, je vous dis humblement devant le trône de Dieu, que l'église Hosanna sera une église puissante, qui va secouer la Réunion et la France, qui va influencer la francophonie dans les semaines et les mois à venir. Vous verrez, votre onction sera partout à la Réunion, et votre onction sera partout dans vos quartiers, et votre onction sera partout en France, et de ce lieu sortiront des prophètes et des pasteurs, des évangélistes, des apôtres, des missionnaires, et l'église Hosanna sera reconnue et connue comme l'église du cœur de Dieu. Je viens de vous donner une prophétie, et de ce lieu sortira des hommes et des femmes qui sauront comment toucher les cœurs brisés. Et de ce lieu, les hommes et les femmes iront voir des hommes et des femmes brisés, des prostituées, des enfants battus, et vous allez les sauver et les aider. Et vos maisons seront ouvertes. Je vois vos maisons ouvertes pour recevoir des enfants maltraités et les élever dans l'amour de Dieu. Et ces enfants seront sauvés, délivrés et deviendront des soldats et des guerriers pour Dieu. Je le vois maintenant au moment où je vous parle. Je le vois maintenant dans l'esprit au moment où je vous parle. Je les vois courir en pleurs dans vos maisons, en demandant de l'aide. Et je vois les maisons des chrétiens s'ouvrir. Et je vois vous dire, rentre, rentre, rentre mon enfant. Tu es en sécurité ici. Et je vois les femmes battues courir. Et je les vois arriver en sécurité. Et je vois la maison des chrétiens. Je vois la maison des chrétiens maintenant même. Briller. Avec une lumière extraordinaire, totalement surnaturelle. Et les gens qui s'ouvrent vont dire, allons à cette église qu'on appelle l'église de la lumière. Allons trouver la paix, parce que eux là-bas, ils célèbrent le vrai Dieu. Et je vois certains d'entre vous, je prophétise maintenant même, je déclare, je prophétise, je vois... Certains d'entre vous, je m'en fiche totalement de l'incrédulité. Je la brise maintenant. Je déclare ce que Dieu veut que je déclare. Je déclare ce que je vois. Je vois pas mal de personnes être placées par Dieu à des postes clés du gouvernement. Je vous vois écrire des nouvelles lois. Je vous vois influencer des chantiers. Je vous vois influencer des maires. Je vois même certains être maires, députés. Je vois certains être arrivés au Sénat, dans cette église, quelques-uns, une ou deux personnes, vous serez membres du Sénat dans les 30 ans à venir. Membres du Sénat, que ce soir quelqu'un écrive la prophétie. Et je vois l'église Hosanna être radicalement transformée par un esprit de liberté et une culture de l'honneur. Et les hommes et les femmes qui seront dans ce lieu commenceront à goûter à la liberté que Dieu leur donne. Et je vois des dizaines de leaders spirituels de toute religion venir se mettre à genoux devant le trône de Dieu. Et Dieu appelle cela une réunion. Et il va toucher même des chefs religieux d'autres religions. Je vois des hommes et des femmes abandonner leurs rites et leurs cultes d'ancêtres et se tourner vers Jésus en criant, Seigneur Jésus, viens dans ma vie. Et Dieu dit, cela va avoir lieu parce que j'ai trouvé un peuple dont le cœur est tout entier à moi. J'ai trouvé un peuple, dit Dieu, un peuple qui est capable d'entendre ce que je dis, de dire ce qu'ils voient, de dire ce qu'ils entendent et de voir ce qu'ils vont dire. Ce soir, le roi des rois te dit, Église, es-tu prêt pour le voyage de ta vie? Car je t'emmène à parcourir une toute nouvelle dimension spirituelle, dit Dieu. Dieu me dit ce soir de dire, Église, je l'entends clairement me dire, ne sois pas inquiet. Ne sois pas inquiet, dit Dieu, car c'est moi. C'est moi qui suis avec toi dans ce moment difficile maintenant. Dieu dit, je vais te laisser comprendre ta vocation afin que ton lieu de brisement devienne un lieu de gouvernement. Dieu dit, n'écoute plus les pronostics. Prévoir l'avenir en te basant sur des faits visibles n'a aucune influence, aucune importance. Je veux, mon Église, que tu commences à prévoir l'avenir en te basant sur des faits invisibles, des faits qui viennent selon le cœur de Dieu.